créer ou exciter des forces si effrénées revenait à édifier de fantastiques constructions érotiques d'une énorme complexité. Elles permettaient de mener des populations entières par leurs désirs, leurs fixations et leurs fantasmes. Tel est le terrible pouvoir que les honorés matriarches ont l'audace d'utiliser. Il suffisait que l'on sache qu'elles possédaient la clé d'une extase sans pareille, et la bataille était déjà à moitié gagnée. La promesse du paradis était le commencement du renoncement total. Celles qui étaient du niveau de Murbella dans cette autre communauté des sœurs ne comprenaient peut-être pas ce qui était réellement en jeu, mais les autres qui se trouvaient au sommet, se pouvait-il qu'elles osent utiliser ces forces sans se soucier, sans se douter peut-être de ce qu'elles recouvraient? Si c'est le cas, comment expliquer alors que nos premières sœurs dispersées se soient laissées attirer dans cette impasse? Un peu plus tôt, Beyonda avait exposé son hypothèse sur la question. Une honorée matriarche face à une révérende mère capturée durant la première dispersion.
« Bienvenue parmi nous, ma chère. Vous plairait-il de voir un petit échantillon de nos pouvoirs ?»
Suivait un interlude sexuel, puis une démonstration de rapidité physique. Peu après, sevrage du mélange et injection de leurs produits de substitution à base d'adrénaline avec adjonction d'une hypnodrogue. Au cours de la transe hypothétique qui s'ensuivait, la révérende mère était sexuellement imprégnée. Conjuguée avec l'agonie sélective due au sevrage, suggérait encore Bey, cela pouvait faire renier ses origines à la victime. Que le sort nous préserve. Les honorées matriarches des origines étaient-elles donc toutes des révérendes mères? Oserons-nous vérifier cette hypothèse sur nous-mêmes? Que peut nous apprendre à ce sujet le couple du non-vaisseau? Deux sources d'informations cruciales étaient là sous le regard attentif des sœurs, mais la clé restait à trouver. Hommes et femmes, non plus seulement partenaires pour la reproduction, non plus seulement soutien l'un pour l'autre, mais quelque chose en plus. L'enjeu a connu une escalade. Dans l'enregistrement projeté au-dessus du bureau, Murbella venait de dire quelque chose qui avait capté l'attention de la mère supérieure. Nous autres honorés matriarches, sommes responsables de ce que nous nous sommes fait à nous-mêmes. Personne d'autre n'est à blâmer.
Vous avez entendu ?
Demanda Beyonda.
Odrad secoua la tête d'un air agacé. Elle voulait se concentrer entièrement sur la conversation.
Tu ne peux pas dire la même chose de moi, objectait Idaho.
Ton excuse est creuse, accusait Murbella. Ce n'est pas parce que les clés Laxu t'ont conditionné à piéger la première imprégnatrice qui te tomberait sous les mains et à la tuer. C'est surtout cela qu'il voulait.
Mais tu n'as même pas essayé de me tuer. Tu n'aurais jamais pu, d'ailleurs.
C'est justement à ce moment-là que...
Idaho s'interrompit, brusquement, après avoir levé involontairement la tête vers l'œil comme.
Qu'allait-il dire ? Fit Beyonda en sursautant. Il faut que nous le sachions.
Odrad continuait à regarder la scène en silence. Murbella fit alors preuve d'une intuition surprenante.
« Tu penses que tu m'as eu à la suite d'un accident indépendant de toi ?»«
Exactement.
Mais il y a quelque chose en toi qui accepte tout ce qui s'est passé, je le vois bien.
Tu n'as pas simplement obéi à ton conditionnement. Tu es allé jusqu'à l'extrême limite de tes possibilités. » Le regard d'Idaho se voila sous l'effet d'une méditation intérieure. Il inclina la tête en arrière, écartant les épaules.
« C'est une attitude mentat ?»
accusa aussitôt Beyonda. Toutes les analystes d'Odrad l'avaient déjà suggéré, mais il restait à obtenir un aveu d'Idaho. Si c'était un mentat, pourquoi s'obstinait-il à vouloir le cacher? À cause des autres choses que ce talent impliquerait. Il a peur de nous et il n'a pas tort. Murbella parla d'une voix sarcastique.
Tu as improvisé à partir de ce que le Claylax avait implanté en toi? Tu l'as amélioré? Il y a une partie de toi qui n'a jamais songé à se plaindre.
C'est sa manière de résoudre son propre complexe de culpabilité,
déclara Beyonda.
Elle est bien obligée d'y croire pour accepter qu'il ait pu la séduire.
Odrad plissa les lèvres. La projection montrait une expression d'amusement sur le visage d'Idaho.
C'est peut-être vrai pour nous deux, dit-il.
Tu ne peux pas rejeter la faute sur le Claylax. « Ni moi sur les honorés matriarches, » fit Murbella.
Tamalan entra à ce moment-là dans le bureau d'Odrad, et se laissa tomber dans le fauteuil vide à côté de Beyonda.
« Je vois que cela a retenu également votre attention, »
dit-elle en désignant la projection. Audra déteignit l'appareil.
« Je viens de jeter un coup d'œil à nos cuves Axlotl, »
déclara Tamalan.
« Ce maudit Cital nous a dissimulé des informations vitales. »
« Notre nouveau Gola n'a pas d'imperfection, j'espère, »
demanda Beyonda.
« Rien que nos souks aient pu déceler. »
Audrad parla alors à mi-voix. « Il faut bien que Cital se réserve quelques monnaies d'échange. » Des deux côtés, la même fiction était entretenue. Cital remboursait le Bene Gesserit pour l'avoir arraché aux honorés matriarches et hébergé sur la planète du chapitre. Mais toutes les révérendes mères qu'il avait étudiées de près savait que quelque chose d'autre motivait le dernier maître Tleilaxu. Habile, le Bene Tleilax. Bien plus habile que nous ne le soupçonnions. Ils nous ont joué un sale tour avec leur cuve Axlotl. Ce simple mot de cuve, une supercherie. Nous imaginions de grands bacs pleins de fluides amniotiques à température contrôlée, des appareillages complexes destinés à reproduire, d'une manière subtile, discrète et efficace, les conditions de fonctionnement d'un utérus. La cuve Axlotl est là, c'est vrai. Mais ce qu'il y a dedans? La solution de Tleilaxu était des plus directes. Rien de tel que l'original. La nature avait déjà mis au point un excellent système au fil des airs. Il ne restait plus au Bene Tleilax qu'à ajouter ses propres paramètres de contrôle, ses propres procédés de réplication des informations stockées dans la cellule.
Le langage de Dieu, disait Cital.
Langage de Shaitan eût été plus approprié.
Rétroaction.
La cellule dirigeant son propre utérus. C'était au demeurant ce que l'ovule fécondé avait toujours fait plus ou moins. Les Tleilaxu s'étaient contentés d'affiner le processus. Audrad laissa échapper un soupir, ce qui lui valut aussitôt un regard acéré de la part des deux autres. La mère supérieure présente de nouveaux troubles. Ce sont les révélations de Cital qui me troublent, et ce qu'elles ont fait de nous. Oh, nous avons eu une saine réaction devant cet avilissement. Mais les rationalisations n'ont pas tardé à suivre. Et nous savions très bien qu'elles n'étaient rien d'autre que des rationalisations. S'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement, si cela nous permet de créer les Gola dont nous avons désespérément besoin, on peut sans doute trouver des volontaires. Des volontaires. Elles avaient vite été trouvées, bien sûr.
Vos pensées sont en train de vagabonder,
grogna Tamalan à son adresse. Elle se tourna vers Beyonda, parut sur le point de lui dire quelque chose, mais se ravisa. Le visage de Beyonda était devenu flasque et cireux, ce qui souvent dénotait chez elle les pires humeurs. Quand elle parla, ce fut d'une petite voix sifflante, à peine plus qu'un chuchotement guttural.
« Je recommande fortement l'élimination d'Idaho. Quant à ce monstre Tleilaxu... »«
Élimination? Pourquoi cet euphémisme pour une suggestion pareille ?» demanda Tamalan.
« Qu'on le tue, si vous préférez. » Et le Tleilaxu devrait être soumis à tous les moyens de persuasion que nous...
Taisez-vous toutes les deux, ordonna Audrad.
L'espace d'un instant, elle se prit le front à deux mains, puis tourna la tête vers la fenêtre en saillie, qui laissait voir la pluie glacée du dehors. La régulation du temps faisait encore des siennes. On ne pouvait pas vraiment leur en vouloir, mais il n'y avait rien de plus haïssable pour un être humain que l'imprévisible. Nous voulons des conditions naturelles. Si tant est que cela puisse avoir un sens. Quand de telles pensées lui venaient, Audrad aspirait à une existence limitée aux activités ordonnées qui lui plaisaient le plus. Une promenade de temps à autre dans les vergers, elle les appréciait à n'importe quelle saison. Une soirée paisible entre amis, l'échange stimulant d'une conversation à bâton rompu avec ceux pour qui elle ressentait un peu de chaleur. De l'affection, pourquoi pas. La mère supérieure avait toutes les audaces, y compris celle d'aimer ses amis. Et aussi la bonne chair, et les boissons choisies pour agrémenter les saveurs. Elle aspirait à toutes ces choses en même temps. Quel plaisir de varier les sensations du palais. Et par la suite, oui, un bon lit bien chaud, avec un compagnon sensible à ses besoins, tout comme elle serait attentive aux siens. La plupart de ces choses ne pouvaient être, bien sûr. Les responsabilités, quel mot encombrant, et comme il faisait mal.
« Je commence à avoir faim, » dit-elle. « Voulez-vous que je fasse servir le déjeuner ici ?»
Beyonda et Tamalan la regardèrent bizarrement.
« Il n'est que 11h30, »
se plaignit Tamalan.
« Oui ou non ?»
insista Odrad. Les deux autres s'entre-regardèrent.
« Comme vous voudrez, » dit Beyonda.
Il y avait un dicton au Bene Gesserit, selon lequel tout marchait beaucoup mieux dans la communauté quand l'estomac de la mère supérieure était bien rempli. C'était cela qui avait fait pencher la balance. Odrad activa l'interphone de sa cuisine privée. « Un repas pour trois, Douana. Quelque chose de spécial, à votre choix. » Le déjeuner, quand il leur fut servi, consistait principalement en un plat dont Odrad raffolait « veau à la casserole ». Douana savait doser ses herbes à merveille, particulièrement le romarin, et les légumes étaient cuits juste à point, c'est-à-dire pas trop. Odrad savourait chaque délicate bouchée. Les deux autres arpentaient lourdement leur repas, de l'assiette à la fourchette, de la fourchette à la bouche, et ainsi de suite. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis mère supérieure et pas elle. Tandis qu'une acolyte débarrassait, Odrad posa l'une de ses questions favorites. « Quels sont les potins dans la salle commune et parmi les acolytes ?» Elle se souvenait, quand elle était elle-même acolyte, de la manière dont elle était toujours à l'affût des moindres paroles de ses aînés. Elle en attendait de grandes vérités, mais récoltait rarement autre chose que d'infimes ragots sur Sœur X ou sur la rectrice Y et ses problèmes. De temps à autre, cependant, quelques barrières se levaient et des informations intéressantes filtraient.
« Beaucoup trop d'acolytes parlent de participer à la nouvelle dispersion, »
fit Amalan de sa voix âpre.
« Les rats ont envie de quitter le navire, j'en ai l'impression. » « Il y a également un renouveau d'intérêt pour les archives, »
dit Beyonda.
« Les sœurs les plus méfiantes viennent vérifier si la signature génétique de Siona est présente à un degré suffisant chez tel ou tel acolyte. »
Odrad trouva ce détail intéressant. Leur ancêtre Atréide commune du temps du tyran, Siona ibn Fouad al-Seyefa Atréide, avait transmis à sa descendance le don d'échapper totalement aux recherches des prescients. Toutes les personnes qui circulaient ouvertement sur la planète du chapitre possédaient cette immunité ancestrale. « Un degré suffisant ?» répéta-t-elle. « Elle croit qu'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas protégées ?»«
Elles veulent seulement qu'on les rassure, » grogna Beyonda. « À ce propos, pourrions-nous revenir à Idaho? Il a la marque de Siona tout en n'étant pas protégé. Je trouve cela inquiétant. Pourquoi certaines de ces cellules n'appartiennent-elles pas à la descendance de Siona? Qu'ont fait les Tleilaxu sur lui ?»«
Duncan est parfaitement au courant du danger et il n'est pas suicidaire, » répondit Odrad.
« Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il est au juste, » gémit Beyonda.
« Probablement un Mentat, » intervint Amalan.
Et vous savez comme moi ce que cela peut impliquer. Je comprends pourquoi nous conservons Murbella, dit Beyonda. Elle détient des informations précieuses. Mais Idaho et Sital,
ça suffit comme ça, coupa Odrad. Il y a une limite aux aboiements des chiens de garde. Beyonda accepta cette remontrance avec rancœur. Les chiens de garde, c'était l'expression Bene Gesserit qui désignait les sœurs chargées de surveiller en permanence ce qui se passait au chapitre afin que personne ne se laisse détourner vers des parages dangereux. Éprouvant pour les acolytes, mais cela faisait simplement partie de la vie des révérendes mères. Odrad avait essayé de l'expliquer un jour à Murbella, alors qu'elles étaient toutes les deux en train de deviser dans l'un des salons aux parois grises du non-vaisseau. Elles étaient debout, face à face, les yeux dans les yeux. Une conversation détendue, sans façon. À part, bien sûr, le fait de se savoir épier par les œils comme qui se trouvaient partout autour d'elles. « Les chiens de garde ?» avait dit Odrad en réponse à une question de Murbella. « Cela signifie que nous sommes toutes les mouches du coche de quelqu'un d'autre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Nous nous harcelons rarement. Un simple mot suffit la plupart du temps. » Murbella, une moue de dégoût sur son visage ovale aux grands yeux verts pleins de concentration, avait cru visiblement que la mère supérieure faisait allusion à une formule consacrée que les sœurs utilisaient dans ces occasions.
« Quel mot ?»«
N'importe lequel, bon sang. Celui qui nous paraît approprié sur le moment, c'est un réflexe mutuel. Nous avons en commun ce « tic » dans notre intérêt même. Nous ne nous plaignons pas, car cela nous aide à demeurer vigilantes envers nous-mêmes. Et si je deviens révérende mère, vous m'épirez aussi. Nous avons toutes besoin de nos chiens de garde. Nous serions affaiblis si nous ne les avions plus. Je trouve cela oppressant. Pas nous. Et même répugnant, avait ajouté Murbella en levant les yeux vers l'objectif qu'elle voyait briller au plafond. Comme ces maudits œils comme. Nous veillons sur les nôtres, Murbella.
Quand vous deviendrez Bene Gesserit, vous serez assuré d'être bien soigné pendant tout le reste de votre vie.
J'aurai une niche confortable.
Bien au contraire, dit Odrad. Vous ne cesserez d'être mis à contribution. Vous devrez rembourser le Bene Gesserit jusqu'aux limites extrêmes de vos capacités.
Les chiens de garde ?
Nous sommes toujours pleines d'égards les unes envers les autres. Celles d'entre nous qui occupent des positions importantes peuvent se montrer autoritaires ou familières, mais seulement sous l'impulsion du moment et pour des raisons soigneusement mesurées.
Ne jamais se laisser aller à un peu de chaleur ou de tendresse, hein ?
C'est notre règle.
De l'affection tout au plus, mais jamais d'amour.
Je vous ai dit quelle était la règle.
Odrad voyait clairement les réactions de Murbella sur son visage. Ça y est, elles vont me demander de renoncer à Duncan.
Ainsi, l'amour n'existe pas au Bene Gesserit,
fit Murbella d'une voix triste.
Il y a donc encore de l'espoir pour elle, se dit Odrad. L'amour existe, avait-elle répondu à haute voix. Mais mes sœurs soignent cela comme une aberration.
Ce que j'éprouve pour Duncan est donc une aberration.
Et les sœurs s'efforceront de la corriger.
La corriger ? Pauvres handicapés qui ont besoin de rééducation thérapeutique.
L'amour est considéré comme un signe de dégradation chez les sœurs.
Je lis en vous des signes de dégradation.
Comme si elle suivait les pensées d'Odrad, Beyonda la tira de sa rêverie en disant
« Cet honoré matriarche ne fera jamais partie des nôtres. »
Elle essuya un peu de sauce qui était restée au coin de sa bouche.
« Nous perdons notre temps à essayer de la convertir. »
Au moins, Bey ne l'appelle plus Catin, se dit Odrad avec philosophie. « C'est déjà un progrès. »